Aujourd'hui, je vous présente le portrait de famille de Wasila Djabi, la maman de Khalil, 20 ans. J'espère bien prononcer son prénom. Tantôt, Wasila pourra me reprendre si ce n'est pas le cas. Comme à chaque émission, je m'inspire, vous le savez, du parcours de mon parent invité pour bâtir cette émission. Et celui de Wasila, ses expériences, son vécu, son parcours est extrêmement riche, ses idées multiples et diverses. Donc, j'ai été très bien servie, vous pourrez l'entendre, pour construire cette émission. Je n'ai pas dit le prénom de votre fils de la bonne façon, hein?
Non, vous l'avez... c'était correct.
Ah, Khalil. C'était correct!
Oui!
Est-ce que ça a une signification particulière, ce
oui.
prénom?
Oui, en fait, le prénom, c'est Khalil. Ça veut dire le confident, celui qui est proche de toi. Dans... C'est aussi, ça décrit un état, l'état de l'amoureux, donc avec son amoureuse, Al-Khalil. Et en fait, je l'ai nommé parce qu'en fait, le prophète Abraham, donc Ibrahim, son qualificatif, c'est Ibrahim Al-Khalil, parce qu'il était, c'est lui, conversé avec Dieu, il était capable d'être très, très en relation avec Dieu. Et en même temps, il y avait quelque chose derrière, c'est que mon frère qui est décédé, mon frère aîné, s'appelait Brahim. Je n'étais pas capable de dire son nom à l'époque. Mm-hmm. Et donc, j'ai choisi... C'est tout un amalgame. J'ai choisi quelque chose qui est derrière.
Ouais. Comme... Voici là un des beaux problèmes que l'on a eu avec vous, c'est choisir cette photo, la photo pour représenter votre famille.
Oh
on
oui,
demande
oh oui, oh oui.
à toutes nos familles. Peut-être parce que, je le disais en introduction, votre vie est riche, votre parcours multiple également. On a décidé, tout juste avant l'enregistrement de l'émission, de présenter une photo avec, bon, avec bien sûr votre fils. Ce fils qui est peut-être si important parce que si on avait écouté votre famille lorsque vous étiez plus jeune, vous ne l'auriez jamais eu, cet enfant-là.
Tout à fait, tout à fait. Mon fils, c'est vraiment la prunelle, comme on dit, de mes yeux, là. Et ce fils-là, je l'ai toujours espéré. C'était un rêve, une utopie. Un rêve et une utopie en même temps. Donc, oui, c'est un bon choix. Ouais. Mon fils, c'est important dans ma vie.
Ouais. Ouais. Pourquoi votre famille pensait que vous ne pourriez jamais être une amoureuse, être une femme, être une maman? C'est que tout jeune, bébé, à peine 3 mois, vous avez eu une maladie, disons grave, poliomyélite, qu'on appelle ici polio, et vous vivez maintenant avec les conséquences de cette maladie-là.
Oui. Je vis avec le syndrome post-polio, qui est un syndrome assez complexe, que j'ai découvert en fait au Québec, parce que je me culpabilisais beaucoup par rapport à toute la fatigue que j'avais de mes membres supérieurs, notamment parce qu'ils étaient surutilisés. J'étais avec des béquilles, donc j'étais debout. J'ai toujours combattu pour être debout, comme tout le monde. Toute petite, j'avais 3 ans dans un hôpital en France, j'étais déjà rebelle. Donc, j'ai incité tout le monde à enlever ses appareils avec, vous savez, c'est des petites ceintures là qu'on ferme. Imaginez des petites ceintures de pantalon là, des petites, il fallait les enlever. Et donc, je leur ai dit, levez-vous. Et effectivement, moi, à l'âge de 5 ans, j'ai décidé que je marcherais, qu'il n'était pas question que je reste à 4 pattes. Sinon, je devais être toujours appareillée, donc avec un appareil, vous savez, avec toutes les ceintures et compagnie là. Donc, oui. Je suis, rebelle dans l'âme parce que je veux marcher. Mais quand j'étais au Québec, j'ai eu l'opportunité d'avoir un outil qui ne m'a pas été présenté parce qu'en fait, c'est même pas parce qu'en Algérie, il n'y a pas d'accessibilité. Ouais. En France, le statut ne me permettait pas d'avoir ça. Mais au Québec, je ne sais pas comment nommer ça, c'est une opportunité, c'est un salut. Pour moi, ça a été un salut d'avoir ce fauteuil, d'avoir la possibilité d'avoir un quadriporteur, parce que quand on arrive comme immigrante, on n'a pas de médecin de famille, on n'a pas de dossier médical, on n'est rien, on est zéro, on est vide, donc les gens ne nous connaissent pas.
Et ça a été une opportunité. Donc, vous le dites, Wasila, arrivé ici au Québec en 1999, vous avez vécu en Algérie, en France... accouché en Angleterre. Je veux revenir justement à cette grossesse que vous avez eue, mise en France et après en Angleterre. Une magnifique grossesse où vous vous êtes sentie, je dirais, pleine.
Remplie, ouais. Pleine.
Ouais.
Oui, effectivement. Donc, j'ai connu mon conjoint, mon premier conjoint, parce que j'en ai un deuxième maintenant. J'ai connu, pas en même temps, hein. J'ai connu mon conjoint en France, à Paris. Et donc, ça a été amoureuse et un choix, quelque part, parce qu'on n'a pas le choix. je me sentais pas avoir le choix complètement d'avoir le conjoint. Donc, il y a eu ce conjoint intéressant dans le sens humain qui m'acceptait tel que j'étais avec ce handicap-là parce qu'il est un obstacle au niveau de la relation.
Ouais.
Donc, je suis tombée amoureuse de lui. Lui devait quitter pour l'Angleterre. Et donc, je l'ai rejoint à un moment donné. On s'est mariés, le mariage seulement religieux. Et je suis tombée enceinte. Je faisais à l'époque ma première année de doctorat en biologie moléculaire. Et donc, ça a été, on m'a mis devant le choix, l'obligation de ou avorter ou continuer ma grossesse et quitter. Oui. Donc, j'ai décidé que je gardais cette grossesse parce que pour moi, c'était un rêve d'avoir un enfant. Et pendant ma grossesse, même si j'étais vraiment, parce qu'on n'avait pas les moyens, il y avait une condition de vie très difficile, plus difficile que ce que j'ai vécu, pour moi en tout cas, au Québec. Mais j'étais pleine, j'étais heureuse. D'être enceinte et d'être avec celui que j'aime et qui m'aime. Donc, j'étais très heureuse cette période-là, même si vraiment, financièrement, c'était très difficile de rejoindre les bourgs.
Et que vous étiez loin de votre famille qui était en Algérie à ce moment-là.
Oui, j'étais seule.
Vous l'avez dit, Wassila, lorsque vous êtes arrivée, bon, dans des situations quand même complexes, en 99 au Québec, vous vous êtes sentie tout de même accueillie, vous avez pu bénéficier d'opportunités, ce qui n'était peut-être pas le cas en Algérie. Et j'aimerais ça vous entendre parce que je n'ai pas eu l'opportunité de le faire dans les portraits de famille précédents, le regard du handicap ailleurs. Et bon, vous, votre connaissance, c'est ce pays, l'Algérie, qui doit être bien différent d'ici.
En fait, pas si différent. Parce que l'Algérie, quand même, ce n'est pas le... Comme on pense qu'on est sous des tentes et tout. On est vraiment dans... C'est la France, le style français, là, vraiment. Richesse, voiture à outrance, super luxe. Et j'ai eu le bénéfice, le privilège, parce que c'est un privilège, de naître dans une famille assez aisée. Donc, mon père était assez aisé. Donc, je n'ai pas manqué financièrement de manger et tout ça. Et ce qui est drôle, c'est que étant aisée, ma famille n'a jamais pensé à l'accessibilité pour me faciliter la vie. Donc, notre maison, il y avait plein. C'était une villa, il y avait plein d'escaliers, il y avait plein. Donc, et j'avais la seule chose que j'avais, et c'est important parce que j'ai fait des études, parce que j'ai pu avoir ces choses-là. C'est que j'avais un chauffeur qui m'emmenait à l'école, qui me ramenait, tout ça. Autant mes sœurs que nous, tout le monde, en fait, on était bien nantis, comme on dit. Bref,
et
mais
ça,
le regard...
c'était important pour votre famille, que vous ayez accès à ces études-là.
Absolument. Ma mère, pour elle, c'était central que je sois la plus instruite, que je sois mieux instruite que mes sœurs et mes frères, parce que je devais m'en sortir dans la vie, parce qu'elle savait que dans la société, le mariage n'était pas dans le lot des choses que normales, régulières.
Elle s'était un petit peu trompée là-dessus, Wassila. Vous êtes arrivée au Québec, belle opportunité, comme vous l'avez si bien souligné, mais il y a eu quand même cet enjeu du logement, de trouver un logement. À un moment donné, vous vous rendez compte que c'est ardu. Vous faites un test avec votre conjoint du moment. Il y va seul et soudainement, c'est facilité. Ça semble être plus aisé pour lui. Et vous vous dites, ah ben peut-être que le problème, c'est pas le fait qu'on soit issu de l'immigration, mais plutôt mon handicap qui dérange. Wassila, j'avais envie de parler avec vous de toutes les obstacles, difficultés, mais les bonheurs aussi qui peuvent survenir ou qui ont pu survenir dans votre parcours de mère.
Ah, le bonheur, c'est de le porter dans mon ventre.
Oui.
Ça a été mon bonheur. Ensuite, quand il est né, et mon fils était, il était adorable, social. Il a embrassé tout le monde. Il était toujours en train d'enlacer tout le monde, d'aider. C'était un amour.
Oui.
Les défis, à partir des défis, on en fait des succès. Donc, mon fils a réussi sa scolarité, malgré le fait qu'il était très hyperactif. On voulait le taxer de ça et tout. Et moi, je refusais. Et ça a marché. Il a toujours réussi. J'ai toujours été derrière lui à le soutenir. Parce que pour moi, il fallait que, en tant qu'immigrant, là, il fallait qu'il soit aussi, comme disait ma mère, il faut que tu sois la meilleure. Donc là, actuellement, il a 20 ans. Il est à la Polytechnique de Montréal. Il est en génie mécanique. Il pense faire, si c'est possible, une carrière. Sinon, il veut faire du droit. Il veut faire du droit. Oui, oui.
Vous colle bien, Wassila.
Il est très loquace. Il ne lâche pas prise.
Vous m'étonnez.
Oui. Et lui, il dit qu'il s'est fait tout seul. Hein? Ça, c'est la dernière réflexion qu'il me dit là actuellement.
Mais vous savez, il y a une expression au Québec qui dit « la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre ». Vous êtes aussi cette personne volontaire, bon, vous l'avez dit en première partie d'émission, rebelle. Vous êtes devenue, peut-être que vous étiez une militante. Comment c'est arrivé dans votre vie, ça?
En fait, parce que comme moi, je suis issue de famille recomposée aussi, quand j'ai connu ma mère à 23 ans, j'ai commencé à connaître la famille de ma mère. Et là, le rebelle est venu de cette famille-là. Ce sont des militants, des gens honnêtes, intègres. Et j'ai compris que le militantisme avait arrivé de là. Mais même, je dirais que si je vois dans Wasila, la militante était déjà là, très jeune, très petite. Donc, et en même temps, au niveau de... Quand je conversais avec ma grand-mère, parce que j'avais un frère aîné qui était très dominant, macho et compagnie. Et il m'a un peu, comment dire, pas mal étouffée. Et alors, j'étais toujours en train de revendiquer. Je me rappelle, à l'âge de 8 ans, je disais à ma grand-mère, c'est toi qui en fais un monstre encore plus. Tu lui donnes tout, tu lui acceptes tout. Et il est comme sur un piédestal. C'est toi, les femmes, c'est vous qui êtes à l'origine. Je ne dis pas que c'est uniquement ça, mais on pousse...
Dans vos yeux de petite fille de 8 ans, en tout cas.
Mais il y a une part de responsabilité. C'est les femmes qui doivent couper le système le patriarcat, finalement. Il se cultive avec les femmes aussi dans son alimentation, disons. Ouais.
Voilà. On parle de militantisme, d'engagement dans différents organismes. Votre CV, il est riche, Wasila, comme votre vie. Vous avez des études en biologie, biochimie. Vous avez également un bac en relations industrielles. Et quand même, cette difficulté encore de trouver de l'emploi, et ça, pour vous, c'est un obstacle encore qui demeure.
En fait, c'est devenu un drame dans ma vie de ne pas avoir un emploi. Donc, quand tu as la poliomyélite, c'est des séquelles physiques en général. Donc, c'est pas psychologique. Mais l'handicap, les obstacles, la discrimination systémique dans la vie, à tous les niveaux, que ce soit en Algérie, qu'ici aussi, parce que tu espères, tu dis le Québec, c'est l'autre monde, c'est comme on le met sur un piédestal. Mais la réalité, c'est que les personnes handicapées en général, les femmes en particulier, et quand tu es femme immigrante, c'est encore plus. Quand tu es une femme musulmane, que tu portes le voile, c'est encore pire. Donc, l'emploi, c'est un obstacle majeur pour les femmes handicapées, pour les femmes immigrantes et pour les femmes immigrantes handicapées. Donc, imaginez, c'est un complexe pervers qui se fait. On ne sait pas, on est discriminé sur le handicap, on est discriminé sur le voile, on est discriminé, on ne sait plus. Parce qu'on n'est pas un être dissociable, on est un tout. Oui. On est un tout avec toutes nos émotions, nos vécus.
Et toutes les expériences qu'on a pu
vie.
Avoir. Ouais.
Oui. Vous dites que mon CV est riche. Il est riche de bénévolat. Je me suis dédiée pendant 15 ans comme bénévole. Parce que j'avais des choses, ça me remplissait. Mais en même temps, là, mon fils, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit que je suis une ratée.
Oui. Parce qu'il est tout jeune, Wasila.
Parce que je ne travaille pas. Parce que je ne travaille pas. Il est toujours en me critiquer. Il me dit, il y a des gens qui n'ont rien comme diplôme et regarde ce qui mène leur vie. Mais toi, tu es diplômée. Regarde combien tu as de l'expérience. Tu as donné. Tu as tellement d'années d'expérience et de formation et tout. Mais tu n'as rien. Tu n'as pas d'emploi. Effectivement. Et là, je fais de la dépression chronique, situationnelle, pardon, à cause de toutes les défis et j'ai raté. Je me sens une ratée.
Ouais. Et ça, c'est une perception.
Ouais. Je suis très déprimée. Ouais. Donc, j'ai arrêté tout le bénévolat et tout.
Parce qu'on le disait tout à l'heure, le travail, c'est au cœur de l'intégration.
C'est la consécration de ta vie, quelque part.
Ouais.
Parce qu'on est malheureusement dans un milieu occidental. Tu réussis, en général, quand tu as un emploi payé. Le bénévolat, même ce que j'ai fait, Dieu sait combien ce que j'ai donné, mais ça ne m'a pas de monnaie. Il n'y a pas une fiche de paye derrière, donc tu ne vaux rien, quelque part.
Vous êtes énormément impliquée au sein de l'Action des femmes handicapées comme présidente, comme directrice bénévole, comme coordonnatrice de projet, un organisme qui vise à soutenir, à accompagner les femmes en situation de handicap dans leurs différents rôles. Wasila Adjabi, c'est déjà la fin.
Merci
beaucoup de m'avoir accompagnée et d'avoir partagé votre grande vie, votre parcours si riche. Évidemment, on n'aura pas eu le temps de tout nommer, mais cette rencontre est faite. Salutations à tout le monde chez vous. Merci.